Nous aurons l'occasion de présenter, pour un certain nombre d'entre vous, Georges Lafont. Certains vont le redécouvrir. Alors pourquoi Georges Lafont? Tout simplement parce que c'est un architecte qui est intervenu au lycée Livette. Cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de l'installation du lycée Livette dans ses murs. Et Georges Lafont succède à l'architecte diocésain Théodore Nau. Alors il se trouve que il y a plusieurs volets sur Lafont à découvrir. Ce que présentera Gilles Bienvenu, c'est-à-dire le style néoclassique urbain, et on verra je dirais, l'autre volet, le style néogothique balnéaire, puisque c'est un architecte qui a construit quand même un grand nombre de villas à La Baule. Nous terminerons également par un autre volet concernant Le Clou, puisque c'est le patron, c'est le fondateur du Clou, cette revue artistique, littéraire, nantaise, fondée en 1884 et qui, pendant quelques décennies, jusqu'en 1912, enfin, 1884-1912, va, je dirais, innerver, va irriguer la vie intellectuelle nantaise. Donc, nous aurons le plaisir de vous présenter un certain nombre de vues et j'en profite pour remercier M. Ravelli, ces conservateurs des archives municipales de Nantes, qui a bien voulu mettre à notre disposition une partie de son fonds. Nous vous montrerons donc quelques documents qui sont peu connus à cette occasion. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.
Bien, donc je vais vous présenter Georges Lafont. Hein, alors, pas forcément hein, sur les questions néoclassiques, il hein, faut toujours faire attention, et les historiens sont beaucoup plus réticents à employer ces termes d'école, etc., bon, que les gens qui ne sont pas historiens. Bon, je pense effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à Lafont, et Lafont correspond vraiment à ce qu'on appelle un éclectique, hein, ce qui permet d'aller dans beaucoup plus de directions que ça. Et on voit quand même, effectivement, hein, au cours de sa carrière, son approche de l'architecture se modifier, notamment, je pense, avec hein, le travail qu'il fait avec un certain nombre de ses collaborateurs qui amènent hein, des notions pittoresques hein, dans son architecture. Alors, Georges Lafont, bon, c'est un Nantais, un bourgeois nantais. Son père, enfin, on trouve hein, souvent des traces hein, de son père, de son grand-père dans les archives. Jules Lafont, son père, hein, qui essaye pendant assez longtemps d'obtenir des concessions de marchés couverts à Nantes. Hein, et puis, ben, ça ne marche jamais parce que la ville tient toujours à ce que ce soit des équipements publics. Et le marché de Talensac hein, va être effectivement le dernier grand marché couvert, marché public à Nantes. Mais donc Georges Lafont, lui, pardon, Jules Lafont ne désarme pas là-dedans. Bon. Une certaine fortune, en fait, hein, qui vient de sa famille. C'est un bourgeois nantais républicain. Hein, et ça, c'est important, effectivement, dans ce 19e siècle. Également aux alentours de 1900, hein, donc à la grande période du républicanisme anticlérical. Alors là, je ne sais pas moi, où mettre Lafont hein, par rapport aux questions de cléricalisme, anticléricalisme, qui se passe à la fin. Il est plutôt effectivement dans des positions modérées hein, en tant que républicain, mais bon, il appartient effectivement à cette mouvance. Et puis, c'est un animateur des fêtes locales, hein, disons, pour faire court, et ce qu'Alain Charles vous dira par rapport au Clou, hein, cette association festive et culturelle hein, qu'il avait fondée à Nantes, bon, situera donc ce côté du personnage. Il est bien inscrit, donc, ce Lafont, dans le milieu artistique local. On vient de voir effectivement une eau forte hein, de Le Père d'après un portrait qui doit être au Château des Ducs, fait par Hippolyte Berthaud. Ici, je vous montre un dessin de Grandjouan. Hein, donc, et je remercie M. Ravilly de m'avoir confier l'original hein, de ce dessin qui est reproduit dans un ouvrage sur le clou. Et puis donc le jeu hein, autour de, du buste hein, de Lafont par lui-même. Lafont est élève de l'école des Beaux-Arts de Paris. Il y a deux façons d'être architecte hein, au 19e. Soit on est formé dans une agence hein, à Paris ou en province, chez son père ou ailleurs, soit on passe par l'école des Beaux-Arts. Il n'y a qu'une école d'architecture hein, en France, hein, c'est la section architecture de l'école des Beaux-Arts. Dans les années 1860, quand même, il y a l'école spéciale d'architecture hein, qui est fondée, qui est plus technique, ou du moins la volonté d'Émile Trélat qui fonde l'école est de faire une école plus technique que l'école des Beaux-Arts, qui apparaît donc effectivement plus artistique. Lafont, donc, lui, va être élève de l'école des Beaux-Arts. Et alors, en fait, pour retracer la carrière d'un architecte, c'est pas très facile, en fait, quand il n'a pas laissé d'archives de fond qui permettent de revoir l'ensemble, hein, à la fois de ses études et des travaux qu'il a pu faire. Par contre, le fait qu'il ait appartenu à un certain nombre d'organismes ou qu'il ait été élève dans des institutions font qu'il y a des petites notices à droite, à gauche. Hein. Alors, par exemple, si on se réfère à ce répertoire des élèves des Beaux-Arts hein, de David de Pénorin, Roux et Delair, hein, on voit une assez brève notice hein, sur Lafont, hein, où on nous dit qu'il est rentré à l'école des Beaux-Arts en 67, au deuxième semestre, qu'il était élève de Questel, qu'il était inspecteur diocésain, qu'il était membre de la société d'une société régionale d'architectes, en l'occurrence la Société des architectes de Nantes, qu'il est officier de l'instruction publique en 1900 et qu'il est donc architecte à Nantes. Il n'y a pas grand-chose, en fait, hein, sur son passage aux Beaux-Arts. Il n'a aucune médaille. On aperçoit en dessous, là, Gaston Lafort, qui a des petits deux entourés. Bon, ça représente les médailles. Hein, à l'école des Beaux-Arts, hein, il y a toute une série de prix, de choses comme ça. Lafont, lui, n'obtient rien, en fait. Et en fait, il est également, pendant le peu de temps qu'il va passer à l'école des Beaux-Arts, élève de deuxième classe. Hein, il ne passe pas dans la première classe hein, des élèves. C'est-à-dire il a une formation d'architecte assez courte. Il est élève donc de l'atelier Questel. Alors, dans l'organisation de l'école des Beaux-Arts, vous avez l'école elle-même où se déroule un certain nombre de cours, hein, des cours de construction, des cours de théorie, d'histoire, etc. Et puis, le projet, l'étude hein, de l'architecture par la pratique du projet, qui se fait dans des ateliers, hein, qui sont des ateliers soit extérieurs à l'école, soit intérieur à partir de 1863, hein, lorsqu'il y a eu une réforme de l'école des Beaux-Arts. Et puis, à l'école, en fait, hein, les étudiants, ou les élèves, comme on dit à l'époque, font des concours. Hein, notamment, le concours par excellence, c'est le prix de Rome. Lafont est très loin, effectivement, de pouvoir hein, postuler à ça, mais également hein, toute une série de concours mensuels, annuels, et puis on concourt également à des prix qui correspondent à des fondations hein, faites par tel ou tel architecte hein, ou artiste qui a laissé. Il y a le concours Chenavard, le prix Rougevin, etc. Bon, Lafont passe pas par là. Élève de l'atelier Questel. Alors, l'atelier Questel, c'est un atelier qui a une longue durée, en fait, hein, de Lépine, puis Blouet, puis Gilbert, puis entre 1859 et 1872, le prof, c'est Questel, puis Pascal. C'est un atelier qui est très couru par les Nantais. Hein, et notamment, ça, c'est l'atelier Pascal, hein, un peu plus tard, hein, donc on est dans les années 1900 à peu près, hein, je n'ai pas la date exacte, et il va y avoir huit Nantais hein, là-dedans, donc notamment Étienne Coutant, qui se trouve ici, ici Robida, qui sont des architectes de la ville de Nantes, puis bon, un certain nombre d'autres. Bon, c'est l'atelier de prédilection des Nantais. C'est un atelier qui passe pour assez rationaliste d'esprit. On est effectivement dans une réflexion sur une architecture utile. Donc Lafont passe quelque temps à l'école des Beaux-Arts et revient à Nantes, donc où il va s'installer comme architecte. À Nantes, il va faire partie d'un certain nombre de sociétés, d'organismes, d'institutions. Notamment, il est membre de la Société archéologique de Nantes et de Loire inférieure. Il y rentre en 1873. J'ai sorti deux petites notices qui sont sorties du bulletin de la Société archéologique de 1910 et de 1911. Et on voit qu'en 1910, parmi l'ensemble fonctions qu'exerce Lafont à Nantes, président fondateur honoraire de la commission des fêtes nantaises. Et puis en 1911, la mention est partie, comme si, il voulait quand même apparaître un peu plus sérieux que cette image de président des fêtes qui lui colle à la peau, il l'a bien cherché aussi, tel qu'on le connaît. Voilà. Alors on voit qu'il est donc toujours inspecteur diocésain, qu'il a été secrétaire de la Société des architectes. Il est membre de la commission départementale des bâtiments civils, du conseil départemental d'hygiène publique, de la commission du jardin des plantes, du comité des amis des arts et de la commission du musée archéologique. Société des architectes de Nantes. Il y rentre en 1882, donc ça fait un moment qu'il est déjà architecte. La Société des architectes de Nantes, c'est une association avant la loi de 1901, mais une association d'architectes qui est fondée en 1846 par des architectes qui veulent insister sur leur différence d'avec l'entrepreneur. Il y a une espèce de confusion qui s'est établie avec le code civil et la responsabilité au moment de la révolution entre architectes et entrepreneurs. Et donc, les architectes veulent se faire reconnaître comme des concepteurs avant tout et se définir comme profession libérale. Et donc, cette Société des architectes a pour but de participer au classement des architectes, comme ils disent, en même temps que c'est le lieu où doivent se retrouver les architectes, où peuvent se retrouver les architectes pour débattre entre eux des questions professionnelles et également des questions artistiques qui les préoccupent. Et puis cette Société des architectes se pose aussi comme l'interlocuteur de la mairie, de la ville de Nantes sur toutes les questions urbaines ou architecturales, avec donc des offres de services. Alors, ils sont consultés sur des questions techniques, etc., dans le courant de leur histoire. Voilà, donc la société a une quarantaine d'années quand la fouille rentre. Il n'a pas une activité extrêmement poussée dedans. Si on s'en tient au compte-rendu ou aux procès-verbaux des séances de la société, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas très très souvent, on voit qu'en 1899, il propose de créer un prix de dessin à Nantes. Par la suite, effectivement, la Société des architectes attribuera un prix ou une bourse aux élèves de l'école des beaux-arts ou de l'école des arts décoratifs, l'école des beaux-arts appliqués à l'industrie de Nantes, voilà, pour prendre son titre exact. En 1902, il fait une intervention sur la gélivité des pierres de Sireuil devant ses confrères. En 1905, il fera une intervention sur des questions d'honoraires. En 1906, il va à Londres au Congrès international des architectes. Effectivement, un voyage en Angleterre pour un architecte, c'est toujours intéressant, surtout si on est un architecte qui travaille dans le domaine du pittoresque, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. En 1908, lorsque le maire de Nantes demande à la société de désigner deux membres pour participer au jury du concours d'un kiosque à musique pour le Jardin des Plantes, Lafont va être choisi. Et puis en 1910, il démissionne. Et il démissionne avec ses deux associés qui sont Leray et Chauvet. Alors Chauvet, c'est son ancien nègre, hein, comme on disait à l'époque. Hein, c'est un jeune architecte qui a commencé à travailler pour lui avant de devenir son associé. Leray, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus âgé. Leray est, à cette époque, 1910, architecte conseil de la ville de Nantes. Et c'est un personnage assez important dans Nantes à l'époque, dans le milieu architectural nantais. Alors, le président de la Société des architectes, Thibaud Guerre, effectivement, quand il fait part de cette démission aux autres architectes, hein, à ses confrères, dit que la lettre n'est pas motivée. Pourquoi a-t-il démissionné? Pourquoi ces trois, hein, en même temps, démissionnent-ils? Mystère. Alors, mon hypothèse, en fait, est liée à la question des concours d'architecture. Dans ces années 1907, 1910, etc., la Société des architectes est repartie en guerre, comme elle l'avait fait dans les années 1867, 1875, 1876, pour que les bâtiments municipaux soient mis au concours, et non pas dévolus, hein, par des marchés de gré à gré à tel ou tel. Et ça, c'est lié, en fait, au service d'architecture et d'urbanisme municipaux. Tant qu'il y a un architecte au sein des services municipaux, un architecte qui dirige le service de voirie, il paraît tout à fait normal que ce soit cet architecte municipal qui fasse les bâtiments municipaux. C'est le cas de Driolet, hein, qui est architecte en chef, enfin d'abord architecte voyer, puis architecte voyer en chef, entre 1837 et 1863. Puis en 1863, après la mort de Driolet, le préfet va imposer un ingénieur des ponts et chaussées. Et puis en 1872, contre l'avis, hein, du conseil municipal, le maire va à nouveau reprendre un ingénieur des ponts et chaussées pour diriger les services. Et il n'y a plus d'architectes, hein, dans les services à ce moment-là. Bon, il y a des dessinateurs, hein, qui font des projets. Bon. Et donc à ce moment-là, les architectes se battent pour demander le concours. Ce n'est pas qu'à Nantes que ça se passe, puisque à la même période, la Société centrale des architectes, hein, et l'ensemble des sociétés des architectes en France demandent la mise au concours, hein, des bâtiments. Et cette demande de mise au concours, c'est lié en fait à cette évolution de la profession vers la profession libérale, hein, avec chaque confrère qui vaut chaque confrère, et la commande ne doit pas aller vers tel ou tel privilégié, tel ou tel qui a plus de rapport avec, hein, les pouvoirs politiques, mais au contraire, on doit être, hein, dans une égalité totale, quoi, pour l'accès à la commande qui passe, hein, notamment par le concours. Il se trouve donc que ces années 1906-7, je vous ai dit, deux ingénieurs, excusez-moi, je reviens en arrière, deux ingénieurs à la tête des services de la ville, mais à partir de 1886, on est revenu, hein, aux architectes, et donc Marchand, hein, qui est l'architecte en chef de la ville, doit prendre sa retraite en 1907. Et au moment où Marchand doit prendre sa retraite, les architectes redemandent à nouveau que l'on revienne au concours, parce que désormais, hein, le successeur de Marchand, comme Marchand lui-même, va être un architecte communal intégré dans des services techniques dont ils n'auront plus la direction générale. Hein, ce qui, effectivement, bon, amène à avoir des architectes, on va dire, moins brillants, hein, que ceux qui pouvaient venir pour diriger globalement, hein, l'ensemble des services. D'où une demande de mise au concours. Hein, voilà. Et il se trouve que Lafont, Leray, Chauvet étaient en pourparler à ce moment-là pour construire les abattoirs et marchés aux bestiaux. Et donc, le fait que la société des architectes se batte pour obtenir que ce type d'édifice soit mis au concours leur paraît comme leur enlever une commande. Alors en fait, hein, les abattoirs ne seront pas mis au concours, hein, et Étienne Coutant, qui est le nouvel architecte voyer en 1911, obtiendra qu'une commande de gré à gré soit faite pour les abattoirs à Toddy Garnier, qui est le grand architecte de Lyon, qui va donc effectivement faire son projet à la pointe de l'île Beaulieu, projet qui ne sera pas construit parce qu'on ben, arrive en 1914, hein, la guerre, etc. Donc pas de concours, mais quand même ce bruit, ce souci de concours, hein, amène donc nos trois protagonistes à quitter, hein, leur confrère pour une question, semble-t-il, uniquement, hein, de commande. Alors, en fait, hein, ni Loret ni Chauvet n'étaient très présents dans la société. Loret, lui, ne venait plus depuis 1907, hein, aux séances. Et puis André Chauvet, hein, qui lui est plus jeune, en fait, hein, avait été admis en mai 1909. Il n'est jamais venu à aucune réunion. Et un an après, hein, il est démissionné. Bon. Ah oui, ça c'était pour illustrer, oui, le côté fait avec le fameux clou. Bon. Autre activité ou autre position de Lafond dans la ville, en 1886, il est chef de bataillon des pompiers. Alors ça, c'est aussi une tradition, hein, que le chef des pompiers soit un architecte. Les sapeurs-pompiers, oui, les pompiers sont aussi des sapeurs. Un architecte, ça sait où il faut attaquer un bâtiment. Alors, ça vient en fait des maisons en pan de bois, hein, traditionnelles. L'architecte sait où il faut frapper pour que la maison s'écroule et donc le feu ne se communique pas aux autres maisons. Voilà. Et donc, depuis effectivement ce temps-là, bon, l'architecte, hein, est resté... chef des pompiers, hein, pendant tout le 19e siècle, hein, c'est un architecte. Lafond est membre de la commission départementale des bâtiments civils de 1887 à 1919. Alors qu'est-ce que c'est que cette commission départementale des bâtiments civils ? À Nantes, elle a été mise en place très tôt, c'est-à-dire en 1826. C'est une commission qui est réunie par le préfet expertise en fait tous les projets de construction publique qui lui sont soumis, à la fois sur des questions techniques, potentiellement sur des questions esthétiques, mais c'est surtout effectivement sur des questions techniques et constructives, et sur des questions de budget. Il y a en France, à l'échelle parisienne, à l'échelle nationale, un conseil supérieur ou un conseil général des bâtiments civils au ministère de l'Intérieur qui expertise tous les projets au-dessus de tant, hein, de francs. Alors ça varie, hein, au cours du 19e siècle, hein, le seuil. Et puis donc pour les projets moins importants, les projets communaux, donc le préfet de Loire-Inférieure avait de son initiative formé une commission en 1826. Par la suite, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ces commissions départementales des bâtiments civils sont légales. Hein, tout département doit en avoir un, avec, hein, une liste des types de personnes qui doivent en faire partie, hein, qui est la même à peu près dans tous les départements. C'est-à-dire qu'on y trouve des architectes, des ingénieurs des ponts et chaussées, un ecclésiastique, hein, pour les églises, un instituteur, ou un inspecteur plutôt de l'enseignement, hein, pour les écoles. Voilà. Donc Lafond, dans cette commission, il sera remplacé en fait en 1919, au moment où il démissionne, hein, pour des questions de santé. Hein, il est né en 1847, donc ça lui fait quasiment 80 ans, non, 70, plus de 70 ans. Plus de 70 ans. En même moment, hein, on remplace Marchand, hein, qui est décédé, et puis un autre. Lafont est remplacé par Duchet, hein, Duchet, autre architecte républicain, hein, qui apparaît comme ça, hein, souvent dans les archives. Enfin, être républicain, ça peut aussi être un bon point pour obtenir des commandes, en fait, hein, quand on regarde les choses d'à peu près. Pardon ? Voilà, la politique, l'appartenance politique est utile. Alors, ensuite, il est inspecteur diocésain. Il est nommé à partir du 1er octobre 1891 et il restera inspecteur diocésain tant que ce service des bâtiments diocésains existera, c'est-à-dire jusqu'à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Alors, le service des édifices diocésains, c'est un service qui est fondé en 1848, hein, lors de la Révolution de 48, par la Deuxième République. C'est un service donc, qui va réunir, qui va mettre en place des architectes, hein, dits architectes des édifices diocésains ou architectes diocésains, qui vont s'occuper des trois édifices diocésains qui appartiennent à l'État, dans les diocèses, c'est-à-dire les cathédrales, les séminaires, les évêchés. C'est l'État qui entretient les cathédrales, on n'en construit pas beaucoup au 19e, qui construit les évêchés, qui construit les séminaires. Et donc, vous avez des architectes, hein, des bâtiments diocésains. À Nantes, ça sera Théodore Nau, hein, qui sera architecte des édifices diocésains et qui fera le grand séminaire de Nantes. C'est un local. Dans la première génération des diocésains, on trouve un certain nombre d'architectes locaux. Il y a aussi beaucoup, effectivement, d'architectes parisiens. Hein, c'est Viollet-le-Duc, hein, qui est très présent dans cette commission-là. Et ce sont des architectes qui gravitent, hein, dans cette mouvance, hein, de la lecture rationnelle de l'architecture médiévale, hein, que l'on trouve dans cette commission des édifices diocésains. Donc de plus en plus de Parisiens. Et comme les architectes sont la plupart du temps non-résidents, ils ont besoin d'un inspecteur sur place qui, lui, sera souvent un local. Alors, à Nantes, bon, c'est vrai que c'était un local, il avait quand même un inspecteur sur place. Hein. À l'époque, effectivement, où Lafont est nommé en 1891, l'architecte est parisien, hein, c'est Sauvageot. Alors, en 1891, en fait, on a révoqué l'inspecteur précédent, qui s'appelait Legendre, il est viré de partout au même moment, Legendre, parce que il est viré de la société archéologique, parce que il a publié à son compte un travail archéologique qui avait été fait dans le cadre de la société, etc., etc. Et il est révoqué en tant qu'architecte diocésain, d'une part parce qu'il donnait des ordres aux entrepreneurs sans l'aval de son chef, et puis parce qu'il avait emprunté de l'argent à un entrepreneur. Ce qui veut dire que il n'avait plus l'autorité nécessaire sur l'entrepreneur parce qu'il était devenu débiteur de l'entrepreneur. Et donc lorsqu'on envisage de prendre Lafont comme inspecteur à la place, Sauvageot, qui est l'architecte diocésain, donc soutient en fait la candidature en écrivant au ministre, hein, que Lafont a les aptitudes techniques et le bon vouloir désirable. Il a un esprit libéral, des formes courtoises et une fermeté de caractère nécessaire dans les fonctions qu'il sollicite. Il occupe à Nantes une situation des plus honorables et dispose en outre d'une belle fortune personnelle qui lui crée une indépendance indispensable. On éviterait donc sûrement avec lui le retour des fâcheux inconvénients qui se sont produits avec le précédent inspecteur, dit Sauvageot. Donc on a intérêt, effectivement, pour être architecte au XIXe siècle, à disposer d'une fortune effectivement, ne pas rester indépendant, hein, vis-à-vis de... C'est vrai que quand on regarde la manière dont se passe le système des honoraires au 19e, souvent on voit les gens qui sont payés en bloc 10 ans après, surtout quand on travaille pour l'État. Hein. Il y a des laps de temps considérables entre le moment où on fait le travail et le moment où on est payé. Et c'est vrai, si on n'a pas de fortune personnelle, il n'y a pas d'argent qui tombe tous les mois, ni même tous les ans, la plupart du temps dans ce genre de profession. Le fameux Legendre, en fait, hein, il apparaissait comme l'architecte le moins fortuné de Nantes, hein, lit-on par... En fait, c'était le fils de l'ancien de l'ancien concierge du Jardin des Plantes, donc il... pas du tout quelqu'un de la bourgeoisie nantaise. Et donc, voilà, ne disposant pas de fortune personnelle, il avait été obligé d'emprunter à un moment donné. Avec la fond, on n'aura pas ce problème-là. Le préfet également hein, soutient la fond. Et pour l'évêque, rien ne peut s'opposer à sa candidature. Donc tout va bien, il est nommé. Alors, en 1900, il va être nommé conseiller municipal. Républicain du premier canton de Nantes. On voit qu'il a eu 2281 voix. À cette époque-là, hein, bon, le système des élections se fait canton par canton. Bon. Il va faire en fait un mandat de 4 ans. Hein. Je pense pas, il n'est pas candidat, hein, ou du moins il n'est pas élu hein, au mandat d'après. Il est officier de l'instruction publique. Il est également délégué cantonal, c'est-à-dire qu'il fait partie en fait d'une commission de contrôle des écoles primaires. Contrôle académique. En 1904, hein, à la fin de son mandat municipal, il est nommé dans la commission de l'école des Beaux-Arts, la nouvelle école des Beaux-Arts, hein, qui vient de se fonder en 1904, il est nommé donc au sein de, ce comité de patronage et de perfectionnement l'année de la création. Il y a trois architectes hein, dans cette commission. Eugène Boimin, qui est un ancien architecte diocésain, celui qui avait précédé Sauvageau. Alfred Marchand, qui est l'architecte en chef de la ville, et donc Georges Lafont. L'école des Beaux-Arts, en fait, je dis fondée en 1904, en fait, il y a une école gratuite de dessin qui est fondée sous l'Ancien Régime, hein, dans les années 1750, qui devient école municipale de dessin après la Révolution, et qui, en 1904, est transformée hein, en cette école d'art appliqué, hein, ou école des Beaux-Arts appliquée à l'industrie, qui, dans le cours de son histoire, du XXe siècle, va devenir école d'art. Hein, et donc aujourd'hui, alors elle vient de changer de nom, hein, c'est École nationale supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole, je crois. Hein, donc, filiation assez longue. Alors donc, cette commission, hein, ce comité de patronage, réunit quelques élus, quelques artistes, des aquarellistes, hein, des peintres, un sculpteur, des industriels d'art appliqué, comme Préaubert ou Le Glamouris, hein, qui sont des ébénistes, hein, plutôt. Alors, Le Glamouris doit être ébéniste de marine, je crois qu'il doit faire beaucoup d'aménagement de bateaux. Un ingénieur, et puis donc Lafond au milieu de tous ces gens-là. En 1904, il est admis à la Société centrale des architectes. Alors, la Société centrale des architectes, c'est une société qui est fondée en 1840 à Paris. Les architectes de Nantes qui fondent en 1846 la Société des architectes de Nantes, en fait, veulent faire à Nantes ce qu'ont fait les Parisiens hein, 6 ans ou 5 ans auparavant à Paris. Et les statuts sont similaires. Sont à peu près les mêmes. Sinon que pour les Nantais, hein, il faut être local. Il y a une clause géographique hein, pour être admis dans la société, alors que la société centrale, elle est une société nationale, ou centrale, hein, comme son nom l'indique. Voilà. Et donc, en fait, hein, dans sa candidature, à la Société centrale des architectes, il donne une liste de travaux. Et ça permet effectivement d'en savoir un petit peu plus. Comme lorsqu'il a été recruté comme architecte diocésain, il a également fait un CV, qui ne s'appelle pas CV à l'époque, hein, mais qui permet effectivement de recouper avec les autres choses. Voilà, enfin, ce sont les types effectivement de sources que l'on a pour retracer la carrière d'un architecte quand on n'a pas de fonds conservés. Ce genre de choses-là. Alors, actuellement, la Société centrale des architectes, elle existe toujours sous un autre nom, elle s'appelle Académie d'architecture. Elle porte le titre d'Académie d'architecture. Donc l'Académie d'architecture n'a rien à voir avec l'Institut, hein, les académies. À l'Institut, en fait, il y a une Académie des beaux-arts, hein, qui comprend tous les arts et l'architecture, alors que l'Académie des architectures, c'est une association privée, qui est l'héritière de cette société des architectes, cette Société centrale des architectes. Une reconnaissance. Hein, et puis, on voit que dans ce bordereau, hein, qu'il remplit, hein, où il fait sa candidature, il certifie qu'il n'a jamais été entrepreneur, ni associé d'entrepreneur, et qu'il n'a jamais vérifié les mémoires d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait profession commerciale. C'est un architecte libéral, c'est pas un commerçant. Ce qui lui permet effectivement d'être membre de cette société. Alors, donc j'ai cité tout à l'heure, j'ai évoqué la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 et la suppression des édifices diocésains, enfin du service des édifices diocésains. Que deviennent ces édifices? Les cathédrales restent cultes, restent possession de l'État, et la plupart, alors je ne sais pas si c'est toutes, j'ai pas fait le tour des cathédrales de France, mais sont monuments historiques. Hein, la plupart des cathédrales doivent être classées parmi les monuments historiques. Et donc, ce sont les architectes des monuments historiques qui vont s'en occuper. Il se trouve que Lafont, effectivement, en 1907, va être nommé architecte ordinaire, non, architecte adjoint des monuments historiques pour la cathédrale. Hein, et donc, il va conserver l'entretien de la cathédrale en changeant de ministère, en fait, enfin, mais il conserve effectivement ce bâtiment-là. Loret, par ailleurs, hein, est architecte ordinaire des monuments historiques pour la Loire-Atlantique. Alors, il y a un architecte en chef des monuments historiques, qui est parisien la plupart du temps, et puis des architectes ordinaires ou adjoints sur place. On retrouve effectivement le même système. Donc Loret, son ancien associé, hein, non, pardon, ce n'est pas son ancien associé, on est en 1907, 1911, donc Loret, lui, va effectivement être architecte des monuments historiques, et puis, en 1914, hein, Lafont, alors je ne sais pas s'il démissionne de son poste d'architecte ordinaire ou si bon, il n'est pas renouvelé, mais toujours est-il que c'est Loret, hein, qui va le remplacer, donc petit groupe, hein, d'architectes qu'on retrouve toujours comme ça un peu dans les mêmes réseaux. Autre implication institutionnelle de Lafont, en 1908, le préfet forme une commission pour réunir l'ensemble des usages locaux du département et donc en faire un recueil qui rendra plus facile leur application, leur lecture et leur application. Et donc, cette commission va être formée essentiellement de magistrats, d'avocats, et puis un architecte qui est Lafont. Alors, la commission est formée en 1908. Les architectes, les membres commencent à travailler. Il se trouve que le petit groupe qui s'occupait des usages de la région de Châteaubriant n'a pas terminé son travail au moment de la guerre de 14-18. Et puis, on oublie les choses, hein, on fait la guerre. Voilà. Et puis, en fait, ce n'est qu'après la guerre, en 1919,
que le nouveau préfet va reformer une nouvelle commission qui débouchera donc sur ce recueil de 1924. Hein. Donc il a fallu en fait de 1908 à 1924 pour arriver à bout de ce travail. Et désormais, dans la commission de 1919, c'est plus Lafond hein, qui a atteint un certain âge, c'est Guchet, hein, toujours le même, hein, qui va intervenir. Lafond intervient souvent comme expert auprès des tribunaux. Alors en 1913, le préfet s'inquiète auprès du président du tribunal, du tribunal civil de Loire inférieure, de la liste des experts. Et donc le président du tribunal répond « J'ai l'honneur de vous faire connaître que le tribunal civil de Nantes, ayant reconnu les inconvénients graves d'une liste d'experts attitrés, quelques-uns ayant abusé d'une façon regrettable de la confiance qui leur avait été accordée, n'a plus de tableau officiel d'architecte expert. Il nomme habituellement M. No, père, doyen des architectes de Nantes. » Alors, c'est plus hein, l'ancien diocésain, hein, il est mort, c'est le fils. Lafond, architecte du gouvernement. Et en tant qu'architecte du gouvernement, en fait, on entend hein, ces postes diocésains ou désormais monuments historiques. Hein, ce n'est pas un poste particulier, hein, architecte du gouvernement. Et puis Leray, architecte des monuments historiques. Donc, qui sont les experts habituellement nommés hein, par le président du tribunal. Également Marchand, hein, architecte honoraire de la ville de Nantes, Capelle, professeur à l'école des Beaux-Arts. Mais poursuit effectivement le président du tribunal, il désigne tous les autres architectes de Nantes indiqués par les parties en cause lorsqu'elles sont d'accord sur un nom. Et donc on parle Lafond, hein, donc parmi ces quelques architectes hein, reconnus particulièrement par le préfet. Il faut dire que là, à ce moment-là, là, donc 1913, janvier 1913, il y a un an, 31, pardon, en Loire-Inférieure, il y a 31 architectes patentés. Hein, ce n'est pas une profession très très lourde. Il n'y a pas grand monde, hein, en fait. Il y en a une vingtaine membres de la Société des architectes de Nantes et 31 au total. Alors, 1924, c'est l'année du décès de Lafond. Il avait prévu, en fait, hein, dans son testament, de faire un legs à la ville de Nantes pour aider de jeunes artistes. Le prix Lafond, qui a fonctionné pendant quelques décennies, sont récompensés hein, des graveurs, des peintres, des sculpteurs, des architectes, hein, tous les ans, enfin, sont récompensés, sont touches, bourses. Alors, je ne sais pas quel était le montant en 1924, mais bon, ce prix Lafond, en fait, hein, dure un certain nombre d'années. Et puis en 1954, hein, 30 ans après, il est réformé, il devient le prix Lafond, prix de la ville de Nantes. Et désormais, en fait, hein, la ville de Nantes donne 50 000 francs au lauréat. Hein, 50 000 francs anciens. Hein, en 1954, ça ferait 500 francs d'il y a 10 ans. Mais bon, là, je n'ai pas les échelles hein, en tête. C'est quoi c'est, c'est un mois de salaire, 50 000 francs, 54, je ne sais pas. Un truc comme ça. Voilà, parce que le prix Lafond lui-même, hein, il était arrivé à 1 000 ou 1 100 francs, hein, ce qui fait en fait hein, 10 francs, quoi. Ce qui n'était vraiment pas grand-chose. Et puis donc, bah, ce prix hein, va se poursuivre. Alors, les jeunes artistes, hein, généralement issus de l'École des Beaux-Arts, ou les architectes hein, issus de l'École de Nantes qui touchent ce prix-là, bon, avaient l'habitude hein, d'appeler ça le prix Lafond de tiroir, tellement c'était devenu dérisoire comme somme. Et puis, en 2002, en fait, hein, le prix Lafond a été supprimé et remplacé par l'actuel dispositif, hein, le prix des arts plastiques de la ville de Nantes. Alors, c'est 4 754 euros, c'est-à-dire 30 000 francs. Donc, je pense qu'effectivement, oui, ça a été calé avant les euros, pour avoir cette somme un peu bizarre, plus un atelier pendant 2 ans. Ben alors, par contre, Lafond, hein, le legs qu'avait donné Lafond, je ne sais pas ce que c'est devenu hein, dans cette affaire-là, il ne doit plus rapporter grand-chose. Voilà. Alors, déjà, hein, souvenons-nous, hein, à la fin du XIXe siècle, Lafont demandait à ses confrères d'instituer un prix, hein, de dessin. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur, hein, d'aider les jeunes artistes, les jeunes architectes ou les jeunes artistes. Voilà. C'est un personnage comme ça dont l'image est brossée à travers sa participation à des institutions ou des implications dans la vie. Alain Charles, hein, tout à l'heure, hein, poursuivra sur le côté festif, hein, du personnage. Moi, je vais vous parler un petit peu donc de choses comme ça qu'il a construit à Nantes ou dans la région.